Bonjour Hugues.
Bonjour Fabrice.
Eh bien écoute, merci de nous accueillir aujourd'hui à
Bienvenue, c'est un
Grenoble,
plaisir.
de m'accueillir pour le coup. Je suis venu avec toute mon équipe technique. Donc merci de m'accueillir et merci surtout de me donner un peu de ton temps, que je sais précieux, avec toutes tes occupations. Donc du coup, comme tu le sais, ben voilà, je suis parti dans cette aventure de créer un blog pour parler d'achat et surtout pour faire parler d'achat. Et donc du coup, dans cette réflexion, dans ce sujet, je me suis dit que c'était intéressant de partager avec beaucoup de personnes des échanges avec des gens qui sont importants pour le métier et avec qui je prends plaisir à échanger. Donc voilà, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui avec moi. Et donc du coup, peut-être pour les quelques-uns, les quelques rares qui ne te connaîtraient pas, peut-être situer un petit peu qui est Hugues Poissonnier, ce que tu fais aujourd'hui.
Oui, alors je suis professeur à Grenoble École de Management depuis maintenant 14 ans et je dirige la recherche de l'IRIMA. L'IRIMA, c'est l'Institut de recherche et d'innovation en management des achats
Très bien.
qui a été créé en 2008. Et cet institut, pour en dire quelques mots, a vocation à faire de la recherche essentiellement appliquée. Alors, on la
D'accord.
distingue de la recherche académique par le fait que la recherche appliquée répond directement à des problématiques très concrètes qui sont celles de nos partenaires, entreprises, organisations avec lesquelles on travaille. Et tout ça donne lieu à la fois à des publications dans des revues plutôt professionnelles, parfois dans des revues académiques aussi, mais surtout beaucoup d'accompagnement, de formation, de conférences dans ces
D'accord.
organisations-là et même dans d'autres, hein, d'ailleurs. On est
Ça veut
pas
dire
mal.
que ton temps aujourd'hui, il se répartit entre de l'enseignement pour Grenoble École de Management, pour donc IRIMA du coup pour conduire ces projets, pour y participer, c'est cela?
Oui,
Et
une part de mon temps, bien sûr, importante, qu'on peut qualifier de pédagogie, même si l'essentiel de ce temps-là, c'est plutôt un temps de coordination de cours que je ne fais pas moi.
D'accord.
J'enseigne évidemment, et
D'accord.
d'ailleurs pas qu'à Grenoble École de Management, même si c'est là que
D'accord.
j'enseigne le plus.
Principalement.
J'enseigne dans d'autres écoles de commerce,
D'accord.
comme Kedge Business School à
Parfait.
Bordeaux,
D'accord.
l'EM Strasbourg, à l'université
Très
aussi, à
bien.
Aix-en-Provence, à Lille,
Bon.
un petit peu à l'étranger, notamment en Suisse.
Bon.
Mais effectivement, on a beaucoup de programmes, ne serait-ce qu'à Grenoble École de Management, sur tous les campus qui sont les nôtres dans le monde.
D'accord.
Et là, il s'agit surtout de coordonner des cours, pour une
D'accord.
fois que je ne fais pas, mais pour lesquels il va falloir valider un peu les
D'accord.
examens, les contenus et toutes ces choses-là.
Très bien.
Ça, c'est la partie pédagogie.
Et ça représente enfin une partie importante de ton temps. Comment tu arrives à
Oui, c'est une partie qui est
ouais.
difficile à évaluer dans l'absolu sur une semaine, par exemple,
Ouais.
parce qu'il n'y a pas de 2 semaines qui se ressemblent, il
Ouais.
n'y a pas non plus 2 jours qui se ressemblent, mais voilà, oui, c'est une vraie partie importante de mon
D'accord.
temps, qui est à peu près équivalente à la partie que je consacre à la recherche et derrière la recherche, pas seulement le fait d'être tout seul dans mon bureau, c'est d'ailleurs très rarement le cas, mais beaucoup plus être sur le terrain, communiquer, disséminer les fruits de cette recherche-là.
D'accord.
Et vulgariser quelque part, voilà, c'est pas forcément écrire dans des grandes revues,
Ouais.
mais transmettre les fruits de cette recherche-là, les digérer, les vulgariser pour les rendre vraiment concrets, tangibles pour les
D'accord.
organisations qui vont mettre en place des pratiques originales.
Parfait. Alors on reviendra sur cette partie écriture, puisque du coup je sais que à la fois tu as un grand producteur et tu as beaucoup aider aussi les acheteurs à positionner. On revient un petit peu sur toi avant ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, c'est pareil, on connaît tous Hugues, mais voilà, le parcours un petit peu, l'enseignement, les achats, quelques mots sur ton histoire, du coup, sans rentrer dans les détails très personnels, bien sûr.
Moi, à l'origine, j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans le Nord-Pas-de-Calais,
D'accord.
les Hauts-de-France, comme on les appelle maintenant. J'ai fait mes études à Lille, études d'économie, hein, plutôt au départ.
D'accord.
Donc un bac plus 5 à l'université. Et puis après, je suis allé faire un DEA, qu'on appelle maintenant un master recherche, à Montpellier, juste pour une année au départ,
D'accord.
parce que je me disais que c'était quelque chose qui me donnerait quelques
Ouais.
cordes supplémentaires à mon arc, la possibilité d'enseigner, parce que l'enseignement, ça a toujours été une activité qui me plaisait. Je fais des cours particuliers, le
D'accord.
tutorat, dès que j'en ai eu l'occasion, l'entraînement de tennis, etc. Donc cette transmission, c'était toujours quelque chose d'important pour
D'important
moi.
pour toi.
Donc je suis parti faire ce DEA à Montpellier et puis donc en sciences de gestion, hein, plutôt là je me suis rapproché de l'entreprise par rapport à l'économie. Et puis ensuite j'ai eu la possibilité de faire une thèse financée. Donc j'ai signé, je suis
D'accord.
parti dans cette aventure-là
D'accord.
et j'ai commencé tout en faisant ce doctorat à enseigner à
D'accord.
l'université à Montpellier et à Subdeco aussi.
D'accord. Et c'est parti. Et à quel moment, du coup, tu croises les achats? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient un terrain de jeu sur lequel tu vas, hop, y investir
Ben, je dirais quelques années ou très peu de temps après être arrivé ici à Grenoble, quelques rencontres, notamment avec Salvatore Mera, qui était ici responsable des enseignements en achat, avec qui on a monté l'IRIMA au départ. Et puis, dès mon projet de thèse, finalement, ça tournait autour du contrôle, mais au sens large, hein, dans les relations interorganisationnelles, dans l'habillement en France. Et donc, finalement, j'ai surtout rencontré les acheteurs et les directeurs achats. L'idée était de voir quelles étaient les pratiques vis-à-vis des fournisseurs, comment ces pratiques-là évoluaient. Et finalement, mon terrain a surtout...
Quand tu arrives à Grenoble,
j'ai déjà touché un petit peu ce métier des achats du doigt, mais sans même moi avoir été formé aux achats, sans les avoir pratiqués à aucun moment, mais avec quelques rencontres, avec un intérêt pour ce métier-là, avec cet intérêt qui venait du fait que j'avais déjà bien perçu que c'est sans doute la fonction qui évoluait le plus dans les entreprises. Déjà il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui c'est sans doute encore plus vrai. Et en évoluant, cette fonction-là contribue à faire évoluer toute l'organisation qu'il y a autour.
L'écosystème,
et je me suis dit, c'est quand même là un endroit très intéressant pour comprendre l'évolution du fonctionnement des entreprises et même de la société tout autour.
D'accord. Bah écoute, j'imagine que pour un grand nombre d'entre vous, y compris ceux qui l'ont déjà entendu, il y a un petit peu d'histoire personnelle sur ce chemin, c'est intéressant. Alors Hugues, du coup, une fois encore, je l'ai dit, tu es une personne qui inspire beaucoup les acheteurs, les entreprises, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je vous le conseille d'aller le voir lors de conférences ou d'interventions. Cet enseignement aujourd'hui, voilà, on est en 2020. Qu'est-ce qu'on raconte à ces acheteurs qui arrivent aujourd'hui pour se former? Quelles orientations on leur donne? Comment tout ça se met en œuvre? C'est quoi les quelques pistes où vraiment tu dis c'est ça les thèmes sur lesquels on insiste beaucoup? Et qu'est-ce qui est en train de bouger un petit peu par rapport à ce que peut-être des plus anciens ont pu connaître?
Alors forcément, les compétences évoluent, hein, celles des acheteurs, celles des organisations, les compétences plus collectives, organisationnelles, interorganisationnelles même. Cette espèce de savoir-faire, de bien travailler ensemble, notamment avec les fournisseurs, mais pas que. Parfois même avec des concurrents, parfois avec des clients, etc. Donc on parle évidemment de plus en plus d'entreprises étendues, d'écosystèmes. Et souvent, les acheteurs se trouvent au cœur de cet écosystème, notamment l'écosystème d'innovation. Donc évidemment, ça interpelle sur les compétences, l'évolution des compétences, mais peut-être qu'il faut revenir en amont de tout ça à la définition même de la performance. Qu'est-ce que la performance d'une entreprise? Quelle est la contribution des achats à cette performance-là? Et de plus en plus, on a une vision élargie, qui s'élargit en tout cas de la performance. D'accord. On se dit que même quand on est un organisme comme nous de formation, une école, une grande école, l'idée est peut-être de se dire que si on contribuait à former des acheteurs qui apportent tout ce dont les entreprises ont besoin, on ferait sans doute quelque chose de très important, mais on passerait à côté de l'essentiel.
D'accord.
L'essentiel étant, chacun de nous, dans l'entreprise et en dehors, on a un pouvoir de transformation du monde, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits où ça mérite d'être transformé, il y a du changement qui est nécessaire. On survalorise parfois aussi le changement, parce que tout ne doit pas être changé. Il y a aussi plein de choses qui fonctionnent très bien, et des choses qui sont plutôt à préserver, et même des choses qui sont menacées. Donc il faut savoir aussi défendre un certain nombre de choses, tout en changeant ce qui mérite de l'être également. Et donc, une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est de dire la performance s'élargit, donc on prend en compte des éléments plus sociaux, environnementaux, c'est extrêmement important, pas uniquement la performance à court terme, purement économique, etc. Et les acheteurs sont vraiment au cœur du business model, on peut dire aujourd'hui, des entreprises, et ont cette capacité à changer beaucoup de choses.
D'accord.
Et une fois qu'on a dit ça, pour y arriver,
il
y a effectivement des compétences, et je pense qu'il y a surtout les compétences relationnelles qui sont de plus en plus importantes. Parfois, on a des gens qui viennent se former aux achats, étant déjà ingénieurs, ils se disent on va développer une double compétence. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir une double compétence, parler les deux langages, de l'ingénieur, de l'acheteur, etc. En réalité, les acheteurs n'ont pas à travailler bien qu'avec des ingénieurs. Ils doivent travailler bien avec les commerciaux, avec leurs collègues de la finance, avec les RH, etc. Finalement, avec beaucoup de gens dans l'entreprise. Et finalement, c'est peut-être un petit peu illusoire d'avoir cette compétence multiple. Ou alors, on est en train de définir un mouton à cinq pattes qu'on ne va jamais trouver.
Exact.
Alors, peut-être que la vraie double compétence, c'est bien sûr la compétence achat classique qu'on connaît bien. mais aussi la compétence relationnelle. D'accord. C'est-à-dire cette capacité à travailler bien avec tout le monde. D'accord. Et pour ça, il s'agit sans doute de développer ce qu'on appelle les soft skills, hein, les compétences douces depuis quelques années, et notamment les compétences émotionnelles. Donc aujourd'hui, c'est sans doute le sujet sur lequel j'interviens
D'accord.
plus,
Super.
Non seulement dans les écoles, mais aussi en entreprise, D'accord. dans les organisations, par le biais de conférences, de formations. Comment on peut développer la compétence émotionnelle, notamment des acheteurs, mais pas que,
ouais.
pour mieux travailler ensemble, mieux collaborer, pour mieux innover, pour mieux créer de la valeur, etc.
Je partage pour le coup ce que vient de nous dire Hugues, pour le voir cette fois-ci en entreprise. Et si je fais le parallèle sur ce qu'on peut voir, je dis souvent là où ça fonctionne, hein, et bien cette dimension-là, elle est clairement prise en compte. Donc c'est vraiment une thématique sur laquelle on reviendra plusieurs fois. Oui, il nous faut des fondamentaux du métier et ceci, voilà, il faut les acquérir et s'entraîner régulièrement à les mettre en œuvre. Mais ce qui va faire qu'on va travailler avec vous demain, ce qui va faire qu'un fournisseur va avoir envie de sur une idée de vous appeler en premier, c'est pas sur une compétence technique. Voilà, c'est sur une relation que vous aurez installée, sur une manière d'appréhender l'échange. Et ça, en effet, c'est des points importants sur lesquels, là, pour le coup, en quelques années, hein, on est passé vraiment à l'acte, j'allais dire. Hein, parce que les soft skills, ça fait un sujet un peu ancien qu'on évoque. Mais souvent, à l'époque, c'était un petit peu, on en parlait. Voilà. Et puis là, du coup, on est au cœur du sujet. Bon, super, ça, c'est vraiment un point. Donc, du coup, sur lequel, alors, on reviendra une fois encore sur aussi sur tes livres et tes ouvrages, et notamment, j'imagine, sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup dans cette manière de transmettre de distanciel, d'e-learning. Comment tu regardes aussi un petit peu cette approche un peu nouvelle qui est aussi dans notre vie de tous les jours et sur l'enseignement, est-ce que ça prend également de l'importance? Ça vient se conjuguer? Est-ce que c'est un assemblage d'approches? En tous les cas, qu'est-ce que tu vois et peut-être aussi en quoi tu crois?
Ok, alors oui, au-delà du e-learning, tous les outils qui nous permettent de travailler à distance sont plein d'avantages, on le voit bien encore récemment avec les grèves. Bon, il y a plein de rendez-vous qu'on peut honorer sans forcément se déplacer.
Exact.
C'est plutôt pas mal, on y gagne du temps, mais on n'y gagne pas forcément en qualité d'échange. Et je pense que c'est une des limites aussi du e-learning.
D'accord.
Je l'utilise, mais de manière très, très modérée.
D'accord.
Un complément du présentiel.
D'accord.
Mais pour moi, qui suis venu à ce métier vraiment par l'enseignement,
alors
qu'on peut y venir par d'autres biais, par la recherche par exemple, même si je fais de la recherche aujourd'hui, je suis vraiment venu à ce métier par l'enseignement, par ce goût, pour la transmission, etc. Ben, rien ne remplace le présentiel, c'est-à-dire le contact direct qu'on peut avoir avec des gens en face, le regard, on voit ce qui se passe dans les yeux, on voit la compréhension ou pas, et voilà.
Donc
voilà
du coup,
mon avis sur le sujet.
Un complément qui, de temps en temps, peut être pratique, peut venir compléter un dispositif.
Oui.
Voilà, mais avec ce que tu ressens aussi sur la manière de transmettre, voilà.
Oui. On va parfois un petit peu trop loin dans l'utilisation de ces outils-là, au détriment du présentiel. Pas ici, pas chez nous, pas dans beaucoup d'autres écoles que je connais bien.
Ouais.
Mais parfois, il faut revenir vraiment à ce contact humain qui est essentiel dans la transmission.
Raison gardée.
Oui.
Allez, il faut qu'on parle un peu des ouvrages, des livres. Voilà. Ouais. Je le dis souvent aussi aux personnes avec qui je travaille. Il est bon de temps en temps d'aller se replonger un petit peu ou de se plonger. J'aimerais que tu nous parles déjà un petit peu de ce que tu fais, de comment on écrit un livre. Voilà, quand on est, parce que du coup, on entend tellement de choses. On voit cette maison dans la montagne où tout seul tu écris le soir. Ou alors est-ce que c'est à un moment donné un assemblage de tes idées, c'est des rencontres, c'est comment déjà ça l'idée du livre déjà comment ça démarre? Voilà.
Bon, j'ai écrit beaucoup de livres, mais j'ai jamais écrit de livre tout seul.
D'accord.
C'est-à-dire que la première chose,
tu n'as jamais écrit tout seul?
Non.
D'accord.
La première chose, c'est toujours une rencontre,
d'accord,
c'est toujours une envie partagée.
D'accord.
C'est toujours avec des collègues. Alors parfois on est deux, parfois on est trois,
ouais.
Et c'est toujours cette idée de se dire tiens, mais si on mettait en commun nos approches qui sont différentes, nos angles de vue qui sont différents, et puis on est parfois pas tout à fait d'accord
non plus.
Et ça c'est super riche parce qu'on peut échanger,
et
ça n'empêche pas d'écrire ensemble, quasiment d'une seule main. Alors évidemment il y a plusieurs mains qui écrivent, mais finalement on arrive à se rejoindre, on fait chacun un pas l'un ou les uns vers les autres,
d'accord.
Et voilà, c'est toujours une aventure un petit peu collective. seul. Donc oui, à un moment donné, il y a un travail tout seul,
ouais.
Peut-être pas tout en haut de la montagne, moi, je suis plutôt dans la vallée.
Que, voilà,
voilà, mais il y a bien un travail tout seul, mais c'est toujours beaucoup d'échanges, c'est toujours beaucoup
d'accord.
De... Voilà.
Alors, pour ceux déjà qui vont risquer de m'écrire, je vais mettre en bas de la vidéo, c'est comme ça qu'on fait, la liste des ouvrages sur lesquels Hulk a collaboré, a rédigé, donc on aura tout ça... On puisse renvoyer vers tes écrits. Et du coup, si jamais il y en avait un ou deux, voilà, si on disait, allez, est-ce qu'il y a un livre ou deux que tu citerais, sur lequel tu dis, voilà, il y a une thématique ou un sujet, une manière d'aborder, dont je suis particulièrement fier, enfin, voilà, tout simplement.
Okay. Oui, alors c'est vrai que j'ai écrit beaucoup d'ouvrages avec une casquette plutôt d'économiste, mais pour rester dans le sujet d'aujourd'hui, je vais plutôt parler de ceux qui sont vraiment centrés sur les achats.
Ouais.
Il y a les achats collaboratifs,
d'accord.
Il y a Collaborer pour innover, qui est sorti l'année dernière, qui est un petit peu le tome 2, même si je ne l'ai pas écrit avec les mêmes co-auteurs, mais enfin, on est un peu dans le même esprit, et puis on a vraiment... aussi progresser dans... aujourd'hui,
d'accord.
On ne répond plus à la question pourquoi il faut collaborer, mais plutôt à la question comment.
Bien sûr.
Alors, parfois, on peut dire que... je ne suis pas là pour survaloriser la collaboration non plus. Il ne s'agit pas de dire que c'est la panacée, mais on part en général d'un niveau de collaboration tel qu'un peu plus, ça ne fait pas de mal. Donc, le constat est plutôt celui-là. Et de dire aussi que toutes les organisations aujourd'hui qui collaborent le mieux sont celles qui se portent le mieux. Voilà, économiquement, financièrement, tout ce qu'on veut. Alors peut-être que c'est parce qu'elles se portent bien, qu'elles ont le luxe de collaborer, parce qu'à certains moments, ça peut coûter un peu.
Ouais.
Peut-être que c'est l'inverse, c'est parce qu'elles collaborent bien qu'elles arrivent à être performantes. En tout cas, il y a un cercle vertueux, et on peut toujours commencer à l'enclencher en commençant par mieux collaborer. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on va trouver dans ces ouvrages-là.
Bon, bah, du coup, c'est une thématique. Ouais. On y reviendra aussi un peu plus tard sur ce blog, parce que ce que je vois moi aussi évoluer, c'est que cette relation, et notamment c'est très intéressant pour les acheteurs, à cette dimension qu'on pourrait appeler de concurrence, c'est-à-dire que le concurrent d'hier est peut-être le partenaire d'aujourd'hui, tout en étant potentiellement un concurrent également.
Oui.
Et là où avant j'avais le sentiment qu'on passait beaucoup de temps à étancher toutes ces relations, eh bien aujourd'hui on y va de manière, certes avec un peu de précaution, mais en tous les cas on voit des choses très intéressantes qui se passent dans ce domaine-là. Et je sais que c'est des points que tu as déjà aussi beaucoup évoqués sur ce format un petit peu à géométrie variable. On est concurrent, partenaire, et pour autant, on collabore. Voilà.
Oui, tout à fait.
Ces frontières-là sont un peu
tombées. On coopète, on est à la fois concurrent, et ça n'empêche pas de coopérer, de collaborer. Oui, tout à fait.
D'accord.
Et tout le monde y gagne, finalement, à la fois les coopérants, le client, le fournisseur, le concurrent, et puis finalement tout l'écosystème, parce qu'on va créer un sentiment, un climat de confiance. Et on sait à quel point la confiance a un rôle extrêmement important dans l'économie.
Oui, ça c'est aussi, enfin bref, on a que des bons sujets. Je le savais qu'en venant te voir, je n'allais pas repartir vierge d'idées. Alors du coup, on arrive un peu sur la fin. On pourrait faire des jours et des jours. Après, il faut qu'on puisse être dans un format facilement aussi regardable par ceux qui vont nous lire. Voilà, comme à chaque fois, je sais que c'est un exercice qui est pas simple, mais c'est Hugues Poissonnier. J'aimerais que tu puisses nous dire que tu puisses nous partager un conseil, voilà, un seuil. Alors je sais que quand je t'ai proposé le challenge, je m'as dit « Oh, un conseil, c'est difficile, j'aurais au moins plusieurs choses à dire ». Alors tu peux un petit peu les dire si tu veux, mais à un moment donné, s'il y avait une idée à retenir ou s'il y avait vraiment quelque chose que tu voudrais partager avec les acheteurs qui nous regardent aujourd'hui.
Bon, on va rester sur une idée, l'idée principale,
parce que
pour moi, elle est vraiment au-dessus des autres, c'est cette quête de sens, en fait, qui caractérise bien les jeunes acheteurs que je vois arriver sur le marché du travail aujourd'hui. Et finalement, elle est vraiment bienvenue, cette quête de sens. Parce que je pense que, quel que soit le métier que l'on exerce, mais c'est peut-être encore plus vrai quand on est acheteur et qu'on détient des leviers de responsabilité très importants, il faut avoir conscience du fait qu'on fait bien plus que simplement être performant pour son entreprise ou son organisation. Il y a bien sûr une recherche de performance, on en a parlé tout à l'heure, et c'est important, c'est ce qui fait le cœur du métier, sans aucun doute. Mais quand on achète, quand on est acheteur, quand on a des relations avec des fournisseurs, avec un écosystème, on contribue à bien plus que ça. On contribue à créer du lien social, on contribue à la résilience d'un écosystème, et en prendre conscience, c'est déjà une première chose, et endosser avec la responsabilité qui va bien ce rôle-là, c'est aussi pour moi quelque chose de très important.
Message important. je crois qu'il fait un peu de résonance. Bon, du coup, on parle d'achat, hein, on est sur apprendre les achats, mais en vérité, on le sent bien tous, hein, on est dans ce monde qui bouge et qui est en train de se transformer. Donc cette quête de sens, je suis sûr qu'elle résonnera pour beaucoup. Du coup, j'en profite quand même. Allez, on a parlé de livres, on a parlé de tes livres. Et je prends ce conseil sur la quête de sens et je te remercie. Et du coup, je terminerai par un dernier conseil sur un livre sur lequel que tu pourrais nous conseiller de lire, qui ne soit pas forcément d'ailleurs un livre sur les achats, mais un livre qui, ces derniers temps, t'a marqué, t'a apporté et que peut-être tu pourrais... partager avec nous l'intérêt de le lire.
Oui, alors ça, c'est une question difficile parce que la sélection n'est pas évidente. Alors peut-être pour donner un livre quand même sur les achats, moi j'aime bien proposer à mes étudiants de lire un ouvrage que j'ai vraiment aimé, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, The Procurement Value Proposition, donc en anglais, de Chick Canfield. Et on est vraiment là aussi au cœur de cette capacité qu'ont les achats à proposer de la valeur, pas uniquement réduire les coûts.
Il y a quelques années, on parlait de Van Vliet et de... Voilà, c'est un peu la génération qui arrive maintenant. Et
c'est
qui,
ça,
d'accord,
oui,
super.
Tout à fait. Et puis, peut-être un livre qui sort complètement du monde des achats.
Ouais.
Alors, je lis beaucoup d'essais, parfois des romans. Mais en termes d'essais, je pense à l'ouvrage de Christophe André, qui est un abécédaire, en fait, de psychologie positive. Et n'oublie pas d'être heureux. C'est vraiment un régal. Voilà, c'est un abécédaire, donc il y a des mots, et c'est vraiment extrêmement bien pensé. On
n'oublie
apprend beaucoup de choses.
Heureux,
n'oublie
Christophe
pas d'être
André.
Heureux. Voilà, j'aime beaucoup aussi L'éloge de la lucidité de mon ami Ilios Kotsou.
D'accord.
Voilà, puisqu'il fallait donner un roman.
Alors,
c'est peut-être encore moins évident.
Mais vas-y.
Peut-être
mais
que
vas-y.
Je vais regretter d'avoir lancé cette phrase-là, parce que maintenant il faut que je complète.
Ah, ben oui, du coup.
Bon, j'aime beaucoup les romans qui me permettent de découvrir des connaissances scientifiques.
D'accord.
Et qui vont donc dans la science-fiction un petit peu, mais quand même accrochés au réel, et qui donnent envie d'aller creuser après. Donc j'aime bien ce que fait Bernard Werber, par exemple, et puis Barjavel, je pense, au Grand Secret, qui est vraiment un roman que j'ai lu plusieurs fois.
Alors là, vous avez vu, on a, voilà, c'est ça. Ça, c'est Hugues, c'est-à-dire que c'était le livre qui c'est la bibliothèque d'Hugues. En tous les
petite
cas,
partie.
Une petite partie de la bibliothèque. Mais je crois que c'est important, une fois encore. On le sait, les achats, c'est un métier d'expérience et on se nourrit de ce qu'on vit. Je crois aussi qu'il faut qu'on s'inspire de personnes qui ouvrent des voies, qui éclairent un peu des pistes. Et puis, du coup, il faut qu'on aille chercher un peu dans ces livres. Je crois que c'est important de vous donner du temps aussi pour ça. Donc, Hugues, eh bien, écoute, on va mettre en description tous ces ouvrages. Écoute, il me reste à te remercier. Je savais que ça serait un bon moment, donc je le confirme. J'espère que ça sera aussi un bon moment pour vous qui nous regardez. Et puis, écoute, on va te suivre. On mettra tes coordonnées LinkedIn pour que tu aies des centaines de demandes de connexion, d'amis, voilà, sur LinkedIn. Hein, attention à l'utilisation de tout ça. Et puis, on te retrouve prochainement pour la suite de nos aventures et puis un petit peu de nos aventures respectives dans nos conférences où tu es toujours le bienvenu.
Merci Fabrice, c'était un plaisir partagé.
Et bien bonne suite à toi.
Merci.